7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
7 milliards de voisins, nous sommes à Abidjan. Salut les voisins. Salut les voisines aussi, merci d'être là. On est très très heureux de vous retrouver avec toute l'équipe de 7 milliards de voisins à l'Institut français qui nous accueille. Vous allez découvrir à la fin de l'émission la gagnante du RFI Challenge App pour l'éducation des filles en Afrique. 600 projets numériques on a reçus cet été. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 3 sur les 600. On a un projet congolais, un projet sénégalais, un projet ivoirien. Elles sont là dans la salle. Alors qui va l'emporter ? Eh bien, réponse en fin d'émission avec Marie-Christine Saragosse, la présidente de France Média Monde. Et puis, bien sûr, la gagnante nous rejoindra sur scène. Mais tout de suite, notre sujet du jour, donc, le numérique peut-il créer des emplois pour la jeunesse ? En tout cas, vu comme la salle est remplie aujourd'hui avec que des élèves, des collèges, collèges modernes, collège Sainte-Camille, plusieurs établissements scolaires sont venus. Je sais que vous vous êtes inscrits sur des listes pour venir. Franchement, on sait que vous êtes intéressé par le numérique, vous avez un smartphone greffé au bout des doigts, mais le numérique va-t-il vous procurer des emplois dans quelques années ? Vous le savez aussi, chaque année en Afrique, on a 11 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, 11 millions pour 3 millions de jobs. En Côte d'Ivoire, ce sont près de 300 000 jeunes qui arrivent chaque année. Que connaissent-ils des métiers numériques ? Quels sont les besoins aussi des entreprises ? Quels sont les emplois créés réellement par les startups du numérique ? Et puis quel rôle aussi pour l'État ? Comment se former ? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions avec nos invités. Je vous les présente. Diaco Aubin, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez 33 ans, vous avez fondé un Fab Lab. Un Fab Lab, c'est une sorte de laboratoire avec plein d'écrans. On apprend, on partage des idées autour du numérique. Ça, j'ai donné la bonne définition à peu près.
Oui, on va dire.
Ça s'appelle Babylab.
C'est ça, exactement.
Babylab, il y a un jeu de mots. Baby et puis Babi. Babi, c'est Abidjan.
Oui, Babi, hein, c'est le synonyme d'Abidjan. Oui.
Donc à Babi, on parle le mnouchi, le français et le code informatique. C'est ça ?
On ne parle pas le mnouchi, mais on parle plutôt le langage informatique, le code informatique dans lequel je vais rentrer tout à l'heure.
Et à partir de quel âge on peut venir chez vous dans ce Fab Lab ?
À partir de 8 ans.
8 ans ? Vous allez nous raconter comment ça fonctionne. Linda Vallée, à vos côtés, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez 31 ans, vous êtes ingénieure informatique, vous êtes aussi directrice de la Fondation Jeunesse Numérique, tout récemment créée par le ministère du Numérique. Et puis en cette semaine de Forum des Jeunes à Abidjan, on a le plaisir d'accueillir le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique. Bonjour Sidi Touré.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous. Plaisir. Claudine Quadio, également avec nous, de Orange Côte d'Ivoire. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Et les voisins dans le public, bien sûr, vous avez la parole. N'hésitez pas à réagir, à questionner nos invités.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Alors, comme vous êtes très très jeune dans la salle et que nous on se sent très très vieux, on va commencer par donner la parole à la jeunesse. On a 3 jeunes filles au premier rang qui vont nous dire pourquoi elles sont là, pourquoi le numérique les passionne. Qui commence là ? Allez, on se lance.
Je suis ici parce que je vais être une informaticienne et je vais savoir comment on le fait.
Tu veux devenir informaticienne ? Tu as quel âge ?
J'ai 14 ans.
14 ans, d'accord. Et tu manipules déjà, tu as un smartphone, tu vas sur des applications ?
Oui.
Ah oui. Et la voisine à côté de toi, qu'est-ce qu'elle dit ?
Je me nomme Salmon Fatia, j'ai 11 ans, je suis en 6e au Collège Moderne du Plateau.
Oui.
J'aime beaucoup l'informatique, je préfère la matière de maths. J'aime beaucoup
les maths et l'informatique, c'est ça, hein, c'est ton truc. Wow. Qui a dit que les filles n'aimaient pas les maths ? Ça, c'est fini, ça. Et ta voisine ?
Bonjour, moi, c'est Akwe Dominique. Je suis élève en seconde au lycée moderne Saint-Élysée, Macoriane Mobo. Je voulais être plus tard une ingénieure en informatique, car j'aime beaucoup l'informatique et c'est mon métier de rêve. Quoi.
Et ben voilà, la nouvelle génération, elle est là. La nouvelle génération est là, ils sont de plus en plus jeunes. On m'a même dit, les directeurs de collège m'ont même dit, c'est les plus jeunes qui ont voulu participer contre toute attente. Hein. Donc rien qu'entre les jeunes de terminale et ceux de sixième, il y a déjà un gap, on va dire. Linda Vallée, les jeunes, on le sait, sont à l'aise avec un smartphone, mais finalement, qu'est-ce qu'ils savent concrètement des métiers du numérique aujourd'hui ?
Aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait beaucoup de sensibilisation pour justement faire connaître ces métiers du numérique. Il y en a qui sont déjà très connus, tout le monde sait ce que c'est un développeur informatique par exemple. On dit qu'il écrit des lignes de code, il parle un langage qui est différent du français, de l'anglais, du baoulé. Il écrit et on comprend. On comprend mais ils se comprennent entre eux, ça paraît un peu sombre. Mais aujourd'hui il y a énormément de nouveaux métiers aussi qui se développent. Il y a le métier de hacker éthique par exemple, qui est en sécurité informatique, parce que la cybersécurité aujourd'hui c'est clé et on a besoin de personnes pour protéger les entreprises. On a des métiers de community manager, énormément de choses. Donc des séances de sensibilisation se poursuivent et on est en charge de la promotion des nouveaux métiers justement au sein du ministère de l'économie numérique.
Est-ce que les jeunes peuvent prendre leur revanche avec le numérique alors qu'on leur dit depuis des années et des années, mais vous n'avez pas d'expérience ?
Mais écoutez, quelque part, oui, je dirais, parce que à la base, on considère qu'un jeune qui arrive en entreprise, par exemple pour un stage, c'est un jeune sur qui on va perdre du temps parce qu'il ne sait rien. Parce qu'il va falloir tout lui apprendre. Et ça, c'était problématique. Aujourd'hui, comme les jeunes très tôt commencent à utiliser les outils numériques, ils sont quelque part en avance sur certaines personnes dans l'entreprise. Donc, ils arrivent avec une force dans l'entreprise. Ça leur donne un avantage certain.
Oui, c'est pas toujours facile pour les entreprises, d'ailleurs, de se dire « Je vais recruter un jeune qui va passer sa journée sur Facebook pour mon entreprise ». Ça s'appelle community manager, en gros.
Ça, c'est la vision qu'on a du community manager. Il y a quelques années, si on disait à un chef d'entreprise, embauchez un community manager, il fera la promotion de votre entreprise sur Internet. Il aurait pu répondre, mais pourquoi voulez-vous que je paie quelqu'un qui passera sa journée à pianoter sur Facebook ? Mais aujourd'hui, ils comprennent qu'il y a un intérêt réel, parce qu'il faut justement faire la promotion de l'entreprise et qu'une entreprise qui n'a pas d'image, pas de présence sur Internet, n'est pas vivante.
Alors, vous avez parlé des développeurs, des spécialistes de la cybersécurité, on a parlé des community managers, on peut citer d'autres métiers ?
Oui, il y en a plein. Il y a le domaine du e-commerce où de nouveaux métiers se développent. Il y a tout ce qui est analyse de données aussi. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on a énormément de données. Mais aujourd'hui, ces données-là, il faut les classer, il faut les organiser, il faut les administrer, il faut les utiliser pour aider à la décision dans les entreprises. Parce que beaucoup de données, sans justement savoir ce qu'on en fait et à quoi ça sert en termes de décision, en termes de choix stratégiques, en termes de choix marketing, ça ne sert à rien.
Donc par exemple, pour l'agence emploi jeune, il faudrait des data analystes, par exemple ?
Forcément, il en faudrait parce qu'aujourd'hui, étant donné que la cible de l'agence emploi jeune, ce sont les jeunes, je dirais, maximum 35 ans, c'est exactement la tranche d'âge qui utilise des smartphones, etc. Donc, il faut forcément utiliser ces nouveaux outils pour pouvoir s'adresser à cette cible.
On dit que l'Afrique va avoir besoin, d'ici 15 ans, d'un million de développeurs, mais aujourd'hui, dans la réalité, bon, il y a cet engouement, cet appétit des jeunes. Quels emplois sont créés réellement, Sidi Touré ?
Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la structure de l'économie est essentiellement informelle et agricole pour sa plus grande part. Et donc, de plus en plus, notre démarche au niveau du gouvernement, c'est d'encourager le développement de nouveaux métiers dans ce secteur qui absorbe énormément les jeunes qui sont en situation de chômage. Et donc, forcément, les solutions numériques, nous les orienterons vers ce secteur à l'effet de pouvoir avoir des solutions numériques pour adresser les différentes problématiques de ce secteur. Donc, ce sont à terme pour le projet 2017, ce sont près d'une centaine de jeunes qui sortiront de cette première promotion développeurs dans le secteur du numérique. Surtout l'agriculture en Afrique, c'est la base de notre développement de façon générale. Et en Côte d'Ivoire, tous ces jeunes le savent. Hein. Le progrès de notre pays est basé sur l'agriculture. C'est un slogan qui demeure encore valable aujourd'hui.
Oui, avec des plateformes pour les cultivateurs, pour connaître les cours. Ça, on sait que ça existe déjà. Mais aussi pour écouler les marchandises transformées, notamment. Ça sera,
L'ambition du chef de l'État en cette matière, c'est de dire nous sommes producteurs, par exemple, d'une spéculation, je dirais, le cacao. Il nous faut trouver des jeunes businessmen du secteur de l'agriculture.
Et avec des outils numériques. Claudine Quadio, pour le groupe Orange, en termes d'emploi, est-ce que vous pouvez déjà commencer à soupeser ce que crée le numérique ?
Il faut savoir qu'au niveau d'Orange, les métiers du numérique évoluent vraiment avec notre activité. Tout à l'heure, Linda Vallée a cité quelques exemples de métiers. Nous avons des métiers, par exemple, liés aujourd'hui à la TV numérique, mais aussi au marketing digital. Elle a parlé de base de données, ça c'est le cœur aussi de notre activité. Donc je dirais que véritablement c'est embryonnaire, mais des métiers déjà apparaissent pour nous accompagner dans les solutions que nous essayons d'apporter au plus grand nombre.
Vous êtes accélérateur de PME, de start-up ?
Oui, tout à fait. La Côte d'Ivoire a mis en place ici à Abidjan ce qu'on appelle Orange Fab, qui est un accélérateur justement de start-up. C'est d'accompagner véritablement les entrepreneurs au niveau de leur projet, dans la vie de leur projet.
Alors, pendant... ce n'est pas la même chose qu'un incubateur. Hein. Moi, je ne savais pas la différence. Incubateur, c'est pour les bébés start-up. Accélérateur, c'est ceux qui sont déjà bien lancés.
Ceux qui sont déjà un peu quand même relativement bien lancés pendant 3 mois, la structure essaie de les appuyer sur différents niveaux pour leur permettre justement de développer le projet ou leur entreprise en mettant en place tout le réseau dont nous disposons pour les accompagner.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire oui, je pense que ça va créer des emplois ou c'est trop tôt pour le dire ? Parce qu'ils attendent des réponses là dans la salle, hein, les jeunes.
Bien évidemment, c'est des initiatives qui font appel à des ressources déjà individuelles de la part de l'entrepreneur, mais aussi dont ils ont besoin d'être en réseau avec d'autres. Donc nous pensons que oui, ça va créer des emplois.
Oui, excusez-moi. Pendant que vous étiez en train de parler, je fais quelques petites recherches. Avec mon appareil numérique, justement, le numérique en Côte d'Ivoire représente près de 7% du produit intérieur brut. Et en somme, c'est un secteur qui emploie près de 5400 personnes en direct et en indirect près de 100 000 personnes dans les différentes déclinaisons, revendeurs, sous-traitants, etc. Voilà l'information complémentaire.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
7 milliards de voisins, nous sommes à Abidjan avec le public très nombreux, des jeunes, des collèges, des lycées qui sont venus ici pour s'informer sur les métiers du numérique. Alors, est-ce que vraiment les métiers du numérique ont un avenir ou est-ce que c'est une bulle qui va se crever avec rien dedans ? Guyako Aubin, vous avez fondé il y a quelques années un Fab Lab qui s'appelle Baby Lab. Vous avez notamment monté des initiatives de travail en ligne, télétravail. De quoi s'agit-il exactement ?
Au fait, depuis 2016, décembre 2016, nous avons été sollicités par une start-up française qui est basée à Paris. Donc l'idée pour vous faire, c'est de mettre en ligne des tâches digitales venant d'entreprises européennes. Donc c'est de gros projets qui sont séquencés par de mini-tâches et sont mis en ligne pour que des entrepreneurs ici sur le continent qui perçoivent moins de 2 euros par jour puissent exécuter ces tâches digitales. Donc ce télétravail favoriserait en quelque sorte la réinsertion mais la revalorisation de la femme au niveau des métiers du web. Donc les conditions pour pouvoir par exemple faire le télétravail, ce n'est pas d'être au fait un as ou bien un ingénieur en informatique, mais pouvoir les exécuter sans forcément avoir une base.
Mais ces femmes, elles ont quel niveau de formation qui gagnent moins de 2 euros par jour, qui sont donc vraiment dans la précarité?
Bon, moyennement, elles ont le cap du bac au minimum.
Ouais. Donc, ensuite, vous les formez?
Ensuite, nous les formons.
Pendant combien de temps?
De sorte qu'elles soient pour faire digital native. Pouvoir utiliser des comptes Skype, faire des mails corrects et autres, tout ça, avant de passer à l'étape de télétravail. Donc, on les forme également à la bancarisation et puis à la création d'entreprises au niveau du CPC.
Ouais. Vous en faites des digitales natives en 2 semaines?
Oui, en 1-2 semaines selon les niveaux. Ouais. Puisque parmi elles, il y a certaines qui ont quand même le niveau après-bac.
Elles se retrouvent à gagner combien avec votre initiative?
10, 20 euros par jour.
Donc elles multiplient leur salaire journalier par 10.
Exactement.
Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'elles font exactement pour des entreprises, des start-up françaises? Quel genre de tâches exactement?
C'est du traitement du renseignement de données, contrôle de factures, du tagage d'images et puis du contrôle de vidéos.
Est-ce que cette solidarité, elle répond vraiment à des besoins économiques pour ces start-up françaises?
Bon, moi je pense que oui, parce que dans la mesure où ces tâches qui sont exécutées par ces jeunes filles, c'est du travail qu'elles font et c'est comme si elles faisaient de la prestation de services pour ces entreprises françaises là via cette plateforme. Donc c'est en contrepartie la prestation qui leur est reversée lorsque la fin du mois par exemple arrive.
Est-ce que vous, personnellement, croyez beaucoup au télétravail numérique où les jeunes vont rester chez eux devant leur écran et percevoir des salaires?
Moi, j'y crois fortement parce que pour moi, c'est l'un des nouveaux métiers du numérique aujourd'hui. À défaut de pouvoir avoir du boulot en entreprise, déjà avec un ordinateur et connexion Internet, ça fait déjà l'entreprise, au fait.
C'est ça. Donc, en fait, on a un employeur, mais qui est sur un autre continent.
C'est ça, exactement.
Ouais. Sidi Touré, comment le gouvernement va encadrer cette explosion probable du télétravail? On sait que, par exemple, au Kenya, ça a créé 40 000 emplois ces dernières années. Est-ce que vous croyez à un statut d'auto-emploi?
Mais écoutez, nous sommes déjà à la formulation de ce statut du jeune entrepreneur, surtout dans le secteur du numérique, qui certainement va exploser en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, avec une expérimentation dans le secteur de l'agro-industrie. Donc, fortement, nous allons vers cette perspective de façon formelle et nous sommes très ambitieux sur l'objet. Dans la formulation de ce statut spécial de l'auto-entrepreneur jeune, nous sommes aidés en cela par une entreprise, une ONG française qui s'appelle Initiative France. Et donc, nous attendons d'ici la fin de l'année les éléments de résultats qui nous permettraient de soumettre cela au gouvernement pour validation et rendre cela effectif. Parce que les jeunes, que ce soit un engagement dans le numérique ou bien dans les métiers traditionnels, ils ont besoin d'une protection, de facilité fiscale qui puisse découler de leur statut propre de jeune.
Et ce statut, quand va-t-il voir le jour? Vous avez prononcé un mot intéressant, facilité fiscale. Bon, ils sont un peu jeunes hein, encore pour penser aux facilités fiscales dans la salle.
Ben, écoutez, par ailleurs, il existe dans notre dispositif national une exemption fiscale pour toute jeune entreprise qui se met en place et sur une certaine durée, sans oublier d'autres éléments de facilitation à l'accès aux appels d'offres publics pour toutes ces petites entreprises nationales. Donc, tout cela regroupé dans un livret et agrémenté, mis à jour par rapport aux nouveaux métiers, permettront d'adresser cette attente des jeunes et développer l'encadrement.
On va donner la parole à un jeune qui est dans la salle. Bonjour Cédric.
Bonjour, j'ai 21 ans, je suis étudiant en master en télécommunication. Et moi et mes amis, nous avons monté une boîte. Alors pourquoi avoir choisi les télécommunications? En fait, dès le bas âge, c'est mon grand frère qui m'a inspiré. Quand je le voyais manipuler l'ordinateur, en fait, ça me fascinait. Bon, malheureusement, vu qu'il n'y avait pas de formation adaptée à sa formation, à ce qu'il voulait faire, il est parti à l'étranger pour continuer ses études.
Il est parti au Japon pour faire de l'informatique. Hein. C'est pas la porte à poter quand même.
Oui.
Hein. Bon. Et toi?
Bon, moi, de mon côté, c'est vrai, je voulais suivre les traces de mon grand frère, mais je n'avais pas cette chance pour aller à l'étranger aussi. Mais cela ne m'a pas arrêté. Et moi et mes amis, nous avons monté une structure dans le domaine du numérique.
Alors, cette structure, c'est une entreprise déclarée ou tu es encore un peu dans l'informel à 21 ans? Bon,
nous sommes toujours dans l'informel.
D'accord. Qu'est-ce que tu fais exactement?
En fait, l'idée, dès le départ, nous avons créé un blog communautaire avec les amis. Le meilleur blog communautaire de Côte d'Ivoire en 2017.
Meilleur blog communautaire de Côte d'Ivoire?
En 2017.
Bravo, oui. On peut l'applaudir, Cédric. Bon, alors, un blog, en général, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Aujourd'hui, tu arrives à gagner de l'argent avec le numérique?
Tout à fait. Donc, on a réfléchi, moi et mes amis, comment on modernise. Et aujourd'hui, nous avons des clients, nous avons un chiffre d'affaires. Bon, c'est petit.
Oui, chiffre d'affaires, en général, on n'aime pas donner, hein, j'ai remarqué.
Oui.
Oui. Et comment tu vois ton avenir, Cédric? Étudiant, déjà chef d'entreprise, on peut dire, presque. Enfin, en tout cas, auto-entrepreneur.
Oui, auto-entrepreneur. Bon, l'avantage aussi avec le numérique, c'est que nous ne sommes pas obligés d'attendre la fin de notre formation pour entreprendre.
On peut t'applaudir, je pense. 21 ans étudiant. Bonne chance à toi, Cédric. Voilà un exemple intéressant.
Merci.
Nous allons rendre l'antenne pour le Flash à Paris. Nous allons libérer aussi Sidi Touré, le ministre de la Jeunesse, parce qu'il doit retourner au sommet jeune. Merci à vous d'être venu. Et bien sûr, l'émission continue. On revient dans 3 minutes. Le numérique peut-il créer des emplois pour les jeunes? Comment se former aussi, hein? Ça, c'est la question cruciale. On entend des gens très, très jeunes. Comment ont-ils appris tout seul avec des formations? Est-ce qu'on peut se former au métier du numérique si on n'a pas le bac, par exemple? Comment ne pas renoncer à sa passion? On se retrouve tout de suite dans 3 minutes. Restez avec nous, les voisins et les voisines.
My money, my... 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez à Abidjan sur RFI pour 7 milliards de voisins. 7 milliards de voisins et de voisines, avec des collégiens venus nombreux pour notre sujet. Le numérique peut-il créer des emplois? On peut dire que Abby est au top de la tech aujourd'hui. Alors comment se former? Ces métiers sont-ils réservés à une élite de diplômés? On en discute aussi avec nos invités. Diaco Aubin, j'aimerais que vous nous racontiez un peu votre parcours. Vous êtes informaticien de formation. Qu'est-ce qui, dans votre vie personnelle, vous a poussé à vous engager aux côtés des jeunes, voire même des enfants? Vous nous avez dit en première partie d'émission, vous accueillez des enfants dans votre Fab Lab, Baby Lab, à partir de 8 ans, dans des quartiers populaires.
C'était en 2014, lorsque nous avons suivi des cours en ligne avec des amis, qu'on a découvert au fait ce que c'est que le concept de Fab Lab, laboratoire de fabrication. Donc quand on a découvert ce concept, on s'est posé la bonne question de savoir quelle pourrait être la réalité de ces Fab Labs sur le continent africain, particulièrement dans le contexte ivoirien. Donc c'est comme ça qu'on s'est forgé la philosophie de faire des quartiers populaires de potentiels pôles d'innovation technologique. Donc on est expressément installé dans la commune populaire d'Avobo parce que la vision de faire des quartiers populaires consiste également à maintenir les enfants à l'abri du grand banditisme et puis les aider à construire des carrières scientifiques. Donc, ce qui nous a amené à élaborer un programme dédié aux enfants de 8-15 ans qui sont formés à la robotique, à l'électronique et puis au code informatique.
Qu'est-ce que vous entendez par grand banditisme dans les quartiers populaires? Pourquoi vous faites le lien avec ça?
J'entends par grand banditisme des phénomènes qui naissent, par exemple, comme le phénomène de broutage, le phénomène des microbes et autres.
Il faut peut-être expliquer à nos auditeurs qui ne sont pas en Côte d'Ivoire sur le broutage. Qu'est-ce que c'est exactement le broutage? Est-ce que c'est une spécialité ivoirienne ou pas?
Non, ce n'est pas une spécialité ivoirienne. Le phénomène de broutage, au fait, c'est des personnes qui, derrière leurs ordinateurs, sur Internet, essaient d'inventer des histoires pour pouvoir arnaquer des personnes qui sont à l'autre bout du monde. Donc, en les aidant déjà à montrer les bonnes pratiques du monde du numérique, ça les éviterait, au fait, d'embrasser ce domaine par la mauvaise manière.
Voilà. Vous leur dites qu'ils peuvent gagner de l'argent autrement avec le numérique?
Oui, surtout.
Ils sont malins, ils sont agiles, visiblement.
Oui, visiblement, oui. Mais il faut leur montrer, au fait, les nouveaux métiers, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du numérique, ou du moins les bonnes pratiques qui se développent dans les espaces d'innovation que sont les Fab Labs.
Alors, sur quoi vous travaillez exactement? Il y a de la robotique aussi, racontez-nous.
Oui, il y a la robotique. On encadre les enfants à la robotique grâce à des kits d'invention que nous avons.
Par exemple?
Donc, M-Bot, c'est un constructeur chinois qui fabrique des robots que nous avons achetés. Donc, on essaie de façon frugale d'aider les enfants de faire ce que nous pouvons avec le peu que nous avons. Mm-hmm. Donc, on fait la collecte des boîtes de conserve dans lesquelles on essaie de monter des composants électroniques et ensuite automatiser par smartphone.
À partir de boîtes de conserve?
Oui, à partir de boîtes de conserve. Donc, durant tout ce processus de réalisation, ce sont les enfants qui sont mis au cœur de ce programme. Donc, eux-mêmes arrivent à monter ces robots et puis les programmer via des plateformes ludiques et puis les automatiser.
Qu'est-ce qui vous étonne, vous, en tant qu'ingénieur informaticien, par rapport à votre parcours passé, quand vous voyez ces tout-petits qui viennent chez vous là?
Ça me fait plaisir parce que c'est une façon de permettre à ce que la société ou le pays entier puisse être à l'avant-garde au fait de la transition numérique. C'est les préparer au futur.
Mais quand les jeunes viennent chez vous au Baby Lab, donc qui ont de 8 à quoi?
À 15 ans.
8 à 15 ans.
Oui.
On vient comme on irait à l'entraînement de foot ou c'est du boulot?
Ils viennent comme ils sont et quand ils rentrent dans notre espace, on les met par groupe pour qu'ils puissent travailler ensemble de façon collaborative avec d'autres enfants.
Mais est-ce que c'est ludique ou est-ce qu'on vient là comme on ferait des cours supplémentaires?
Bon, c'est de façon ludique, mais c'est en même temps des cours supplémentaires parce que les modules que nous dispensons, ce n'est pas ce qui se fait déjà dans le système éducatif. C'est dans le système éducatif, ce qu'on fait, c'est l'initiation. Mais non, ce que nous faisons, on va un peu plus loin en allant jusqu'à la manipulation des robots pour faire des expériences même scientifiques avec eux.
Qui veut réagir dans le public là? Je sais qu'il y a Mohamed Lamine Kaba qui est fondateur d'African Startup Forum. Mohamed, on vous apporte un micro. Vous voulez réagir par rapport à la formation des très jeunes?
Oui, bon, je pense qu'on se connaît tous dans ce milieu. Je voulais juste faire un complément pour la formation des jeunes. C'est qu'il faut certainement, à partir des programmes que Aubin Diaco met en place et bien d'autres jeunes en Côte d'Ivoire, essayer de créer une synergie avec le ministère de l'économie numérique pour vulgariser ça au maximum. Parce que J'étais à une cérémonie inaugurale d'une activité et nous disons tous que nous sommes dans une révolution numérique. Et il y a un intervenant qui a dit non, la révolution elle est déjà passée. Donc nous, à l'African Startup Forum, nous encourageons, nous faisons la promotion justement du numérique à travers nos startups en utilisant le numérique comme un levier de développement de tous les secteurs de l'économie de nos pays d'Afrique.
Notamment pour communiquer aussi sur sa nouvelle activité,
bien sûr,
son entreprise.
Bien sûr.
Chantal veut réagir à côté de vous. Bonjour Chantal.
Bonjour Emmanuel. Je voulais vous remercier pour l'initiative. Et dire que le numérique aujourd'hui, quelqu'un l'a souligné tout à l'heure, c'est un moyen qui permet de réduire le taux de chômage. Et on a vu l'exemple du jeune tout à l'heure, à 21 ans, il n'a pas fini ses études, mais déjà il a créé à partir de numérique son entreprise à lui, qui lui permet d'être autonome. Et ça c'est une très bonne chose. Mais il faut signaler en même temps que pendant que le numérique se présente comme une solution pour notre jeunesse, il est important qu'au niveau de nos gouvernants, qu'on puisse intégrer dans la formation la base minimum, on va dire, l'informatique dans les écoles. C'est vrai que le gouvernement fait des efforts, mais il y a encore beaucoup à faire. Qu'on puisse, par exemple, intégrer dans la formation de l'alphabétisation, ce qu'on appellerait l'alphabétisation numérique. Nous avons initié cela avec, nous travaillons par exemple sur la question des travailleurs domestiques qui à 90% sont des femmes, des jeunes filles et qui sont analphabètes. Il faut bien qu'elles sachent lire et écrire avant d'utiliser Internet. Et donc nous avons
proposé de faire les deux choses en même temps.
Oui, nous avons proposé
d'apprendre par exemple à lire avec l'informatique.
Voilà, avec l'informatique, parce qu'on s'est rendu compte que dans leur formation, il y a un problème de temps. Il y a un problème de disponibilité. Et donc, pour régler ça, on s'est dit, bon, tout le monde peut utiliser Internet, tout le monde a un téléphone portable. Et donc, à partir du numérique, étant chez elle à domicile ou pendant son lieu de travail, elle peut apprendre à lire et à écrire et à utiliser Internet.
On laisse la parole à un autre auditeur.
Merci. En fait, je voulais réagir par rapport à la formation. Je suis directeur, à l'Institut National Polytechnique de Yamoussoukro. Et par rapport à la formation, on a, énoncé une panoplie de métiers. Mais pour ces métiers-là, il faudrait bien qu'il y ait, des écoles renommées pour former des jeunes. Et Linda a réagi sur un nouveau métier qui est le data scientist. Une chose est d'avoir ces nouveaux métiers, mais une chose aussi est d'avoir des écoles de renommée pour former, ces métiers-là. Et nous, à l'Institut National Polytechnique de Yamoussoukro, notre vocation est de former donc tous ces nouveaux métiers. Et cette année, nous venons d'ouvrir un master en data science, big data, qui permet de former donc des data scientists, c'est-à-dire des personnes capables d'analyser des données, des grandes masses de données, d'en ressortir ces grandes masses de données et donc de prendre de bonnes décisions à l'instant où il faut. Donc, c'est des données qui seront pour les dirigeants, pour les experts, etc., etc. Donc, je dis au total qu'il est bon, les métiers du numérique, c'est très bon. À tout âge, il suffit d'avoir un ordinateur, il suffit de savoir programmer, il suffit d'avoir une idée géniale pour pouvoir embrasser les métiers du numérique.
Oui, enfin, pour rentrer à Polytechnique, c'est pas si simple, hein, quand
non,
même,
c'est
chez
pas
vous.
Si simple, bien sûr. C'est pas si simple.
Il faut avoir. On ne peut pas faire rêver tous les jeunes, là.
Il faut avoir un bagage. Je pense qu'au niveau de la salle, il y a deux jeunes filles qui ont dit tout à l'heure qu'elles voulaient devenir des ingénieurs informaticiennes. Mais c'est très bien être ingénieur informaticien.
À 14 ans, elles disent ça.
À 14 ans. Donc, elles ont déjà une vision. Elles veulent devenir ingénieurs informaticiennes. Je les encourage à avoir de bonnes notes en mathématiques. Il faut avoir de bonnes notes. Physique, il faut avoir de bonnes notes en anglais. Et tout à l'heure, il y a un autre jeune qui est ingénieur informaticien. Il dit à son grand frère qui est parti à l'étranger pour, se former. Je pense que désormais, il n'a plus besoin d'aller à l'étranger pour
exactement,
se former.
Exactement, exactement. C'est pour ça qu'il est resté. On va en parler. Oui. Alors, il y a Polytechnique, il y a d'autres écoles. On laisse la parole à un autre auditeur. Et puis après, on va donner la parole à Linda Vallée sur les écoles.
Bonjour, Marie-Laure Moukoko. Et DG d'une boîte, une start-up.
Ah, une chef d'entreprise.
Voilà. Et en fait, je viens en bout de chaîne et je parlerai un peu de Aubin, qu'on a sollicité, puisque en fait, nos premiers recrutements de jeunes, puisque c'est ça aussi le but, c'est de les récupérer après dans les entreprises. Et nous, c'est un peu le pas qu'on a fait, le challenge qu'on s'est lancé, de prendre 50 jeunes qui viennent de Baby Lab et pour pouvoir éventuellement être nos installateurs et nos consultants sur la société avec un label, une solution labellisée ivoirienne, la première d'ailleurs, dans les IT. Et donc voilà, nous avons créé cette entreprise. Ah ben, et c'est lui qu'on a sollicité pour pouvoir être notre directeur, pour pouvoir faire un recrutement.
À la question, est-ce que le numérique va créer des emplois pour la jeunesse ivoirienne là, dans les 5-10 ans à venir, vous répondez ben, quoi?
Écoutez, on commence. Il faut oser, c'est un peu ça aussi. C'est que, effectivement, monsieur de Polytechnique parlait effectivement de cette formation poussée. Aujourd'hui, les entreprises, qu'est-ce qu'on recherche? C'est tous effectivement qui ont un gros bagage informatique. Mais nous, on a dit, ben, il faut bien qu'on démarre aussi avec ceux qui n'ont pas eu cette chance-là et qui démarrent avec un cursus atypique, hein, qui ne viennent pas de grandes écoles. Et ben, on s'est lancé. C'est un challenge. C'est pas de risque, je n'appelle pas ça un risque, en disant
vous y croyez ou pas?
Énormément, sinon je ne l'aurais pas fait. J'y crois.
Bravo à vous en tout cas pour l'initiative.
Voilà. Merci.
Je voudrais qu'on fasse le point aujourd'hui, comment se former au métier du numérique en Côte d'Ivoire, à partir de quel niveau? Est-ce que par exemple si on n'a pas le bac, on peut espérer apprendre un métier du numérique déjà?
Absolument, on peut aller au Baby Lab déjà. De 8 ans, donc on peut commencer très très tôt.
Et ensuite on arrive chez madame chef d'entreprise.
Voilà, donc là on a déjà un métier, une formation solide et un métier. Au-delà de ça, si on souhaite poursuivre les études, donc aller au niveau du bac et études post-bac, plusieurs écoles existent. Je tiens à citer les ATIC et je voudrais qu'on applaudisse les étudiants de les ATIC qui sont dans la salle.
À Trècheville. Qui est sous tutelle du ministère du numérique.
C'est ça, c'est l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication. Donc c'est une école qui est sous tutelle du ministère de la communication, de l'économie numérique et de la poste.
C'est important de le dire parce que ça conditionne le prix.
Absolument.
Pour les jeunes qui nous écoutent.
Absolument, ça change beaucoup de ce qu'on peut voir par ailleurs parce que les scolarités, selon le niveau, sont autour de 100, 120 000, c'est bien ça les jeunes, hein?
Ouais,
voilà, selon le niveau licence, master, 150 000.
180 euros, quelque chose.
Voilà, à peu près ça. Ouais. À peu près ça. Donc, c'est vraiment très abordable. Beaucoup de parents de ces étudiants-là sont de classe moyenne. Donc, ça fait que ce n'est pas exclusif. Et c'est très, très important parce qu'il ne faudrait pas que le numérique soit réservé seulement aux personnes issues de familles favorisées, de familles riches. Donc, les ATIC me plaît beaucoup pour ça. Je suis enseignante-chercheur à les ATIC. J'ai fait ce choix-là parce que justement, c'est une atmosphère particulière avec des étudiants très bien élevés, des étudiants très serviables qui vous portent votre ordinateur à chaque fois que vous arrivez, qui se mettent debout dès que vous entrez dans la salle, n'est-ce pas? Mais au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres écoles qui vont avoir des filières, par exemple en audit comptabilité, en ressources humaines et communication, et avoir une ou deux filières seulement en informatique. Donc ce qui serait vraiment important, et c'est le travail qu'on est en train de faire au sein du ministère actuellement, on en parlait même hier encore, c'est de répertorier la totalité des filières. C'est un travail qui n'est pas facile, parce qu'il y a des écoles dont on n'entend pas parler, et qui vont avoir une filière quelque part qui est correcte, mais qu'on ne connaît pas. Donc répertorier...
Donc les jeunes ne sont pas suffisamment informés aujourd'hui sur les écoles d'informatique.
Absolument. C'est-à-dire il y a des écoles d'informatique.
Alors, il y a l'Institut supérieur des technologies de Côte d'Ivoire, il y a l'Université de Grand Bassam aussi. Ces formations-là sont beaucoup plus coûteuses.
Oui.
Aujourd'hui, vous, à la Fondation Jeunesse Numérique, vous avez cet objectif de répertorier toutes les formations?
Alors, ça, c'est au sein même du ministère, donc de ma fonction de conseillère technique. On fait ce travail-là dans le cadre du portefeuille promotion des nouveaux métiers, de répertorier l'ensemble des filières. Donc des écoles informatiques, télécom et des filières dans des écoles plus généralistes. Au niveau de la Fondation Jeunesse Numérique, il y a ce travail de sensibilisation où on va dans les écoles pour faire des ateliers d'orientation où on parle justement des différents métiers qui existent, etc.
Et puis vous avez un rôle d'incubateur, vous avez incubé combien de jeunes start-up du numérique là, ces deux dernières années?
Oui, la Fondation Jeunesse Numérique qui a été donc créée à l'initiative du ministère est un incubateur et accélérateur. D'accord? Parce qu'on commence très tôt, du stade de l'idée, à des projets beaucoup plus avancés qui emploient déjà 60, 75 personnes. Donc on a 40 projets.
Alors c'est tout petit évidemment, 75 personnes.
Mais pour une start-up ça peut être
énorme. On a compris qu'on est au stade embryonnaire et tout ça s'additionne hein, avec une multiplicité d'initiatives.
Absolument, parce qu'au niveau d'une start-up, il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup d'incertitudes, d'instabilités. Donc employer déjà des dizaines de personnes pour une start-up, c'est beaucoup. C'est beaucoup.
Est-ce qu'il y a un projet que vous trouvez intéressant, que vous aimeriez partager avec les jeunes, les élèves qui sont ici ?
Trop dur de choisir. On va en choisir un. Quand même, on a un projet qui est plus orienté technologie, qui est un projet qui utilise une technologie existante, hein, que la personne n'a pas inventée, certes, mais qu'il a su joliment adapter. Donc c'est un projet qui utilise la technologie LiFi, qui permet d'avoir Internet via le spectre lumineux. Donc on utilise des ampoules LED, qui sont des ampoules à longue durée de vie, et via justement l'ampoule LED, c'est-à-dire quand on est en dessous de la lumière, on a Internet. Et quand on s'éloigne avec un système de répéteur, dans un rayon de 3 km, on peut se connecter en Wi-Fi aussi.
C'est génial, ça.
Oui, c'est très...
Enfin, c'est une box Wi-Fi à partir d'une ampoule.
C'est ça, à partir d'une ampoule. Alimentée, donc tout le système est alimenté par des panneaux solaires. Donc là, on joint la partie environnementale. Et on a fait un pilote fonctionnel dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, le dernier village avant le Libéria, non loin de Danané, où on a installé justement un kit complet au niveau du dispensaire, où maintenant les accouchements qui se faisaient dans l'obscurité se font dans la lumière, donc c'est quand même un grand pas. Je pense qu'on pourrait applaudir le promoteur, oui, même oui. S'il n'est pas là aujourd'hui. On a également installé les ampoules LED au niveau des deux écoles primaires du village, au niveau de la cour des notables de la maison du chef du village.
Oui.
Donc aujourd'hui,
ça change tout dans la vie des gens.
Les gens
quand même,
quittent Danané pour venir se connecter au village parce que la connexion Internet est plus rapide.
C'est quand même incroyable. Merci à vous, Linda Vallée. J'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que vous... On dit que l'Afrique, c'est le continent du système D, hein, et pour cause, s'adapter en permanence à toute une série de dysfonctionnements. Est-ce que ce sens de l'adaptabilité peut coller avec l'agilité requise par le numérique ?
Dans un sens.
En gros, est-ce qu'ici, ils sont plus doués que sur un autre continent ?
Dans un sens.
Du fait de leur environnement.
Oui, pourquoi ? Parce que, quelque part, on a l'habitude de faire beaucoup avec peu. Donc on est, comme vous l'avez dit, agile. On est efficace. Regardez Babylab, ils font énormément avec très peu à la base.
Ils
et
font
ça grossit.
Des composantes électroniques avec des boîtes de conserve. Hein, c'est
voilà,
ce que
ils
retenu.
Font des ordinateurs dans des bidons de 5 litres. C'est bien ça aussi. Donc ils font énormément de choses avec peu. Et c'est ce qu'il faut. Je veux dire, quand on est un entrepreneur numérique, quand on est une start-up, il faut savoir faire beaucoup avec très peu au départ. Et ce sentiment-là de pouvoir justement se débrouiller, ce système D qu'on a quelque part ancré en nous du fait de conditions plus difficiles qu'autre part, fait peut-être justement qu'on est un peu plus agile.
Oui. Claudine Quadio de Orange Côte d'Ivoire, est-ce que vous souhaitez réagir là-dessus ? Je pense bien sûr à Orange Money, à tous ces systèmes qui ont été rendus possibles, dont la diffusion a été extraordinaire grâce à l'agilité, à l'inventivité aussi du continent africain.
Oui, donc l'agilité, effectivement, certaines solutions, certains services d'Orange peuvent permettre aux jeunes, à la population de pouvoir, je parle par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de Orange Money, oui, permettre à des personnes qui ne sont pas encore ou qui ne sont pas du tout bancarisées de pouvoir avoir accès à ce mobile banking pour les aider dans les différentes activités qu'ils peuvent avoir. Et donc, un peu partout en Côte d'Ivoire, sans avoir à bouger, mais également tout ce qui concerne l'accès au microcrédit et à tous ces différents types de produits. Oui.
On arrive au terme de cette émission. Je voudrais que vous puissiez, les uns et les autres, Claudine Quadio, Linda Vallée, Gecko Aubin aussi, donner vos messages, vos conseils aux jeunes. Ils vous écoutent, ils veulent se lancer dans le numérique. Ils font déjà des options informatiques. Quels sont les conseils que vous leur donneriez, Aubin ?
Moi, je dirais que déjà, il ne faudrait pas voir le domaine des technologies comme un domaine qui est réservé aux élites. Tout le monde peut le faire. On n'est pas obligé d'aller dans une filière technique pour pouvoir faire, par exemple, de la programmation. Donc, je le vois beaucoup plus dans une vision de transformation sociale. Donc, tout le monde peut s'en saisir. Donc, le conseil que j'aimerais donner, c'est de déjà, dès le bas âge, commencer à apprendre les bonnes pratiques du numérique.
C'est-à-dire ? Vous leur dites quoi, là, comme conseil applicable, là, tout de suite ?
Tout de suite, ce qu'il est possible de faire, c'est, par exemple, lorsqu'ils sont dans une commune comme à Abobo, que le Babila, par exemple, sont ouverts
pour qu'ils puissent venir apprendre des programmes avec nous. Voilà. Donc, de fréquenter des lieux comme le Baby Lab en marge de leur programme scolaire.
Ouais. En fait. Il y en aura de plus en plus, des lieux comme ça. Hein. Des
oui.
lieux vraiment de l'entrepreneuriat social pour rendre accessible le numérique aux jeunes. Linda Vallée, un conseil là aux jeunes qui sont venus, nombreux, collégiens, lycéens.
Un seul, ce serait d'être curieux et de ne pas hésiter à poser énormément de questions en gardant à chaque fois leur rêve à l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut demander aux aînés, moi j'ai envie de faire ça, comment on fait pour devenir ça? Est-ce que tu peux chercher sur Internet pour moi telle chose si on n'est pas encore à l'aise avec Internet? Voilà. Vraiment être curieux et aller de l'avant.
Claudine Quadio?
Je dirais qu'au niveau d'Orange, nous sommes attentifs à toutes les initiatives. Donc, nous encourageons beaucoup les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, à pouvoir nous apporter et échanger avec nous des solutions, des projets, des idées qu'ils peuvent avoir.
Merci à vous tous. Travailler avec le numérique sur des projets sociaux. Je crois que vraiment, là, il y a beaucoup de choses à dire également. Vous allez pouvoir rester après l'émission, les jeunes, pour poser des questions aussi à nos invités. Et ça va être maintenant le moment de connaître la gagnante du Challenge App sur l'éducation des filles.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Marie-Christine Saragosse m'a rejoint, présidente de France Média Monde. Ça y est, c'est le moment fatidique.
Alors, moment fatidique. Il y a donc trois lauréates qui attendent.
Trois finalistes.
Trois ouais. finalistes, ce sont des femmes, des jeunes femmes. Et
juste, on va faire durer un peu le suspense. Il y a eu un jury qui s'est réuni, j'étais présidente du jury, avant-hier, un jury de 10 personnes. Et évidemment, elles ont pitché. Elles avaient 10 minutes chacune pour présenter leur projet après une démonstration. Il y avait Patricia Nzolentima de RDC qui est venue de Kinshasa avec son projet Mainyota, qui est une application pour permettre aux filles à la fois de mieux connaître leur corps, gérer leur cycle, et puis d'échanger aussi sur les violences qu'elles subissent en RDC. C'est Nabou Thiam du Sénégal aussi qui est là. Ben, levez-vous, Patricia Nzolentima. C'est Nabou Thiam du Sénégal pour l'application féminine, une appli centrée sur la gestion des règles également comme principal facteur d'absentéisme oui. scolaire. Et puis Raïssa Banoro de Côte d'Ivoire pour son projet Lucie pour alphabétiser des filles
Elle a pas pu
et l'info. Des femmes. C'est... Voilà, on a cité les trois projets.
D'accord. Hein bon, alors... En fait, donc, la lauréate, son projet a un très joli nom, il s'appelle Lucie, ce qui... Et donc, elle, c'est Raïssa Banoro qui va nous rejoindre.
Raïssa Banoro, ivoirienne. Ingénieure informaticienne. Raïssa.
Bonjour, là je suis vraiment sous l'émotion. Moi c'est Raïssa Banoro. L'application se nomme Lucie et l'application c'est une application d'alphabétisation qui permet à toutes les filles qui n'ont pas eu la possibilité comme vous de pouvoir rêver, de pouvoir avoir la chance de réaliser leurs rêves, comme vous dans la salle.
Bravo, vraiment.
C'est formidable, c'est un projet auquel je croyais beaucoup, parce que c'est un projet qui englobe, c'est vraiment de la pédagogie. Hein, on apprend à lire, ça s'appelle l'alphabétisation fonctionnelle. Vous connaissiez ouais, Marie-Christine ?
Mais pas vraiment.
Ça s'adresse vraiment aux femmes dans un contexte qu'elles connaissent. Alors, le mot, la lettre A, on va l'apprendre avec le marché, par exemple. On voit des images de marché, l'application numérique est super intéressante. Et le modèle économique est intéressant aussi parce qu'on paye 500 francs CFA tous les mois, 500 francs CFA, c'est le prix du passage pour passer le pont.
Oui, on passe de la préalphabétisation à l'alphabétisation à proprement dite.
Oui.
Donc c'est 500 francs par mois.
Voilà, c'est ce qu'on appelle un tarif social.
Et nous, on va quand même faire une dotation avec nos
Alors,
partenaires.
Alors, j'allais y venir.
Voilà,
Qu'est-ce qu'on gagne
qu'elle puisse, elle va gagner 15 000 euros pour développer et commercialiser.
15 000 euros. Et un accompagnement aussi, bien sûr.
Et un accompagnement. Bah, vraiment, là, on est très, très heureuses. Et l'année prochaine, on viendra mesurer toutes les filles qui ont réussi à s'alphabétiser, justement, grâce à l'appli de Lucie.
Raïssa, alors l'année prochaine, Marie-Christine Saragosse, ça continue, Challenge App ?
Ça continue et on est en train de vous concocter un nouveau défi qu'on vous annoncera en début d'année prochaine. Pour l'instant, le suspense continue.
Il y aura donc une troisième édition. Merci à vous tous. Il faut bien sûr remercier les partenaires, l'Organisation internationale de la francophonie, Orange. Raïssa se remet de ses émotions. Merci à vous tous aussi. Je peux vous dire que les débats dans le jury ont été très animés avec plusieurs membres du jury qui ont eu du mal, beaucoup de mal à départager les projets qui étaient absolument formidables. Bravo à toutes les trois.
Oui, voilà. Vraiment bravo à toutes les trois.
Merci à vous tous, merci aussi à l'équipe, à Abidjan, Cécile Lavolo, Nicolas Benita, Sina Toussaka aussi qui a vraiment conduit le projet Challenge. Bravo à toi,
Sinatou.
Et comme l'a si bien dit Raïssa, on vous souhaite à vous tous, les jeunes, d'accomplir vos rêves et d'y croire. Merci à vous.
Sept milliards de voisins, c'est fini.